ce que je vous présente, c'est beaucoup plus de l'ordre d'un ensemble d'interrogations que quelque chose de terminé et de conclusion. C'est beaucoup plus des interrogations préliminaires. Puis en fait, je me dis, qu'est-ce que nous apprend Bâle 3 sur la nature de cette finance qui financiarise. Donc, la financiarisation, souvent, on l'aborde en termes d'effets sur l'économie, d'effets sur les acteurs économiques. On va regarder, par exemple, la transformation des fonctionnement des entreprises, la contrainte par les entreprises de passer par des circuits financiers pour avoir cours à leurs activités usuelles. On va regarder l'impact de la financiarisation sur le comportement des ménages en termes d'épargne, en termes de... Mais ici, maintenant, c'est de regarder, de plutôt regarder carrément le secteur bancaire et se dire quel genre de secteur bancaire est derrière cette dynamique de financiarisation. Et c'est beaucoup suite aussi à des discussions avec des gens comme François Morin qui s'intéresse et avec qui on est en dialogue, qui s'intéresse à ce secteur bancaire. Et en fait, une question que je me pose, et je pense que je ne suis pas le seul, on est plusieurs à se poser, c'est qu'est-ce qu'on apprend des suites de la crise de 2008, parce qu'on a vu avec ce que Claude nous a présenté tantôt, qu'il n'y a pas eu, il y a une résistance farouche à toute forme de réglementation, résistance qui se traduit par un certain succès dans la mesure où on a réussi à pelleter par en avant toutes même les propositions les plus timides que propose la BRI ne s'appliqueront qu'à partir de 2018, certaines 2015, mais la plupart 2018-2020, puis qui sait qu'est-ce qui va arriver d'ici là. Que nous apprend la période post-crise 2008 sur ce capital bancaire, ce système bancaire qui est derrière la financiarisation? Les questions que je vais poser, c'est beaucoup en termes de la réaction à la crise et ce que ça nous apprend sur la recomposition du capitalisme avancé, beaucoup plus que, je dirais, de discuter de solutions ou de la qualité des réformes ou régulations qui sont présentées dans le cadre de la réaction à la crise de 2008. Cet aspect-là, je laisse ça à d'autres. C'est pas mon domaine de recherche d'évaluer la valeur des différentes propositions de réformes. Moi, je m'intéresse beaucoup plus à ce que ça nous dit sur la nature des banques qui sont au cœur de la mondialisation financière. Et en fait, je peux dire tout de suite mon hypothèse, qui est une hypothèse dont je ne suis pas le seul à avancer, mais on pourrait dire que, premièrement, il y a une grande continuité dans les processus avant la crise de 2008 et après la crise de 2008, beaucoup plus que de rupture. Par-delà le dialogue politique sur la nécessaire réforme de la finance internationale, quand on examine certains processus clés qu'on voit à partir des années 2000 ou même à partir des années 80, on voit qu'il y a une continuité, il y a même un approfondissement, il y a même certains signes de consolidation de certaines tendances, et je vais en examiner deux avec vous. La première, c'est la tendance à l'oligopolisation. Et ça, c'est très clair au niveau de l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis. On voit que le résultat le plus important de la crise de 2008 et de la réaction à la crise de 2008, c'est un renforcement du caractère monopolistique du secteur bancaire américain. Donc, plus de « too big to fail », plutôt que moins de « too big to fail ». Deuxième aspect, c'est que certains éléments, certaines pratiques financières qui sont au cœur de ce qui va mener à la crise de 2008, en particulier la titrisation, font l'objet, dans le cadre de la discussion autour de la nouvelle réglementation, d'une normalisation. Et ça, c'est très clair. Et ces deux éléments-là de normalisation, et ces deux éléments-là, en fait, on les voit à travers les discussions très récentes sur Bâle 3. Et je vais toucher deux éléments, je vais les souligner très rapidement. Mais la première, c'est cette fameuse liste des 27 banques à caractère systémique qui a été publiée donc au mois de novembre par l'FSB. Et la deuxième, c'est les nouvelles normes en termes de actifs liquides. Et on regarde c'est quoi qui sont dans ces actifs liquides qui vont rentrer dans le Tier 2, le deuxième niveau d'actifs des fonds propres des banques. Et on voit dans ces actifs certains, dans la liste, en fait, certains actifs. En tout cas, ça nous en dit sur certaines transformations. Alors, premièrement, quelques points sur la finance qui financiarisante. C'est un rappel, là, je veux passer très vite là-dessus, mais et je vais déjà discuter d'un aspect qu'a présenté Claude Sarfati, cette fameuse séparation entre proprietary trading, la spéculation, la bonne finance, le modèle de finance bancaire. Je vais en parler dans le dernier point. Trois processus qui sont au cœur de la financiarisation, c'est un peu, là, tout le monde s'entend un peu là-dessus. Évidemment, la formation d'un régime financier centré sur la liquidité des actifs. On est très loin du modèle des années 20, des années 30, où le cœur du développement du capital financier, c'était le contrôle. Ici, on est devant des dynamiques centrées sur la production de la liquidité. Et cette production de liquidité, c'est aussi une diffusion et une expansion des processus économiques qui relèvent de cette dynamique de liquidité. Quand on regarde là, l'expansion, par exemple, dans le domaine des marchés de commodités, on voit ce processus à l'œuvre. Deuxièmement, et ça c'est aussi quelque chose d'important pour comprendre le processus à l'œuvre, la dynamique de financiarisation et les banques sont au cœur de ça, elle est arrimée à la massification des relations financières. C'est-à-dire que ce système est impossible sans le développement de l'épargne de masse. Et là, je parle, c'est particulièrement vrai en Amérique du Nord. D'un côté, de l'épargne de masse, c'est un très long processus là, sur 40-50 années d'approfondissement des comportements d'épargne de masse et de l'endettement massifié aussi des ménages. Et donc, c'est des assises extrêmement importantes. Et ce qu'on va rendre liquide, par ailleurs, ça va être justement cette épargne massifiée et cet endettement massifié. Et c'est au cœur des dynamiques des années 80-90. Et quand on examine le post-2008, on voit que ça continue. Je vais examiner un des deux. Ça va être celui l'endettement de masse liquide, c'est-à-dire la titrisation des créances des ménages. Mais il y aurait l'autre bout qui sera examiné, c'est le développement, l'explosion depuis 4-5 années de ce qu'on appelle les exchange-traded funds, qui sont une nouvelle sorte de fonds, beaucoup plus liquides, en fait, que les fonds qu'on a pu connaître, là, qui sont très rattachés au shadow banking, d'ailleurs. Mais ça, je commence juste à m'y intéresser et je pense que c'est un chantier qui va devenir de plus en plus intéressant. Troisième aspect, et ça, il faut toujours le garder en tête, la pire des façons d'aborder la question de la financiarisation, c'est de partir de l'idée qu'il y aurait une séparation entre la finance puis l'économie réelle, qu'il y aurait le monde industriel et le monde financier. La financiarisation, c'est l'interpénétration des deux logiques, avec évidemment une dominance, c'est-à-dire une hégémonie des acteurs financiers sur les acteurs non financiers, mais il faut toujours garder en tête cette idée d'interpénétration. Et donc, quand on discute, par exemple, de la bonne banque versus la mauvaise banque, eh bien, dont la bonne banque qui va aider une entreprise industrielle à pouvoir naviguer sur des marchés de change très fluctuants, eh bien, on peut aussi se dire la bonne ou la mauvaise entreprise, parce que peut-être que la bonne entreprise, en fait, est en train d'utiliser des produits dérivés sur le marché de change pour faire des profits, parce qu'elle est incapable de faire des profits par le biais de ses activités traditionnelles. Je donne un exemple très canadien, très, très, très facile à comprendre. Air Canada, dernier trimestre, ont réussi à faire des bénéfices. Comment? Tout simplement parce qu'ils ont fait des bonnes gageures sur le marché des changes, dans le ratio dollar américain versus dollar canadien. Et c'est l'essentiel de leur bénéfice de ce trimestre-là renvoie non pas à leur activité de prendre des passagers et les déplacer du point A au point B, ni de contrôler leurs coûts dans le déplacement des passagers, mais tout simplement de leur gageure sur le taux de change. Et quand on remonte à il y a 2 ans, on a eu 3 trimestres sur 4 dans, je pense, me semble que c'est en 2008, mais il faudrait que je vérifie, où Air Canada a fait des profits cette fois-là sur la spéculation qu'elle faisait sur certains produits de pétrole, en particulier sur le fuel, je ne me rappelle plus du nom, le technique là, pour le fuel de l'aviation, mais bref, à la Bourse de New York, on a fait des bonnes gageures et on a réussi à avoir un rendement financier. Et donc, on voit que cette séparation, elle est un peu factice quand on l'applique aux acteurs de l'économie. En termes de structure, quand on a commencé à examiner la financiarisation, on était parti, et ça je remonte aux travaux des années 90, on avait cette idée qu'il y avait une marginalisation des banques par l'arrivée de nouveaux acteurs, les nouveaux intermédiaires financiers, les différents types de fonds, les assureurs. Assez rapidement, on a réalisé qu'en fait, on assistait à une transformation du rôle des banques. Et ça va être important là, pour ce débat autour de la bonne versus la mauvaise activité bancaire. On voyait les banques américaines certaines, les banques nord-américaines en particulier, celles que je connais le plus, mais les banques anglaises aussi, développer des modèles d'affaires arrimés à l'expansion de la marchéisation des actifs financiers et donc une marchéisation de leurs revenus. C'est assez simple à mesurer. C'est, on regarde la part de revenus d'une banque qui renvoie à l'écart entre taux d'intérêt épargne, taux d'intérêt de crédit, versus la part de revenus qui vient des autres sources. Puis on remarque, et c'est global, que la part de revenus des autres sources est maintenant de plus en plus dominante et fait l'objet même d'un développement stratégique. Et donc, l'affirmation de la puissance des fonds comme nouveaux acteurs est quelque chose à prendre avec un grain de sel parce que souvent, ces fonds sont rattachés, soit directement ou indirectement aux grandes banques. Dans le cas canadien, par exemple, la majorité des grands fonds, des grands gestionnaires de fonds, donc de l'épargne collectif, sont rattachés à nos 5 grandes banques qui sont les acteurs importants ici. Dernier aspect qui me semble important, la financiarisation en termes de puissance. Et là, on discute plutôt directement de l'activité de ces banques qui se sont transformées dans le cadre de la financiarisation. Leur puissance vient, je dirais, de trois vecteurs, repose sur trois vecteurs. Premièrement, c'est la capacité de produire des actifs financiers liquides. Je vais en parler dans quelques minutes, mais c'est central de comprendre que c'est pas juste dans le volume, dans la quantité, dans la part de marché, mais c'est aussi dans la production de nouveaux actifs, dans l'innovation d'actifs financiers liquides. Capacité de réguler la circulation de ces actifs financiers liquides ainsi créés. C'est la grande justification du proprietary trading de la part des banques canadiennes et américaines. C'est dire, écoutez, c'est bien beau d'offrir à nos clients industriels des couvertures sur taux de change, sur taux d'intérêt, mais si le marché est à sec, s'il n'y a pas de contrepartie, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous devons assurer la liquidité de ces marchés-là. On n'a pas le choix d'y être présent. Et donc, il y a une fonction positive à la spéculation. Pourquoi? Eh bien, parce que ça garantit la liquidité de ces marchés. Et c'est la grande défense, en fait, en Amérique du Nord, de cette fonction spéculative de l'activité bancaire. Mais évidemment, derrière ça, il y a le troisième point qui me semble extrêmement important, capacité de valorisation financière et extraction de valeur. Et ça, on va le voir de plus en plus à mesure que les enquêtes sur la manipulation du Libor commencent à sortir qu'on passe des accusations à la mesure de ce que ça a coûté à l'économie. Alors, le deuxième point que j'ai soulevé dans cette puissance, le premier point, la capacité de produire des actifs financiers liquides, je l'ai un peu élaboré ici parce que ça me semble important pour comprendre ce qui fait l'objet d'une continuité dans le cadre de l'avant et après crise de 2008. C'est à ça qu'on ne touche pas. Et c'est le modèle d'affaires, de la grande banque. Alors, ces grandes banques sont évidemment, et ça, tu l'avais montré tantôt, donc je vais aller vite, mais sont en concurrence sur l'endettement, sur la gestion du placement, sur la gestion du risque financier auprès des tiers. Évidemment, chaque banque, à l'interne, maximise la façon dont elle gère ses actifs et ses passifs de manière à extraire de la valeur de ses propres activités, ça c'est clair. Mais en même temps, et ça me semble important, d'un point de vue minskien, les banques subissent une pression constante à innover. Il y a une pression à l'innovation financière et ces innovations suivent un cycle assez typique qui me semble important que Minsky documente, qui me semble important, les moments qui me semblent importants à rappeler. Et la crise financière ou l'instabilité financière, pardon, de l'instabilité financière, a un rôle dans ce cycle. Un rôle positif du point de vue des banques, un rôle schumpeterien de sélection des innovations dites vertueuses et d'élimination des innovations dites vicieuses. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour justifier cette activité. Quand je dis positif, c'est dans le sens que ça joue un rôle dans la reproduction du système. Ça ne veut pas dire que c'est un rôle qui doit être valorisé, au contraire. Mais quand même, il faut garder ça en tête. Donc, évidemment, une innovation financière fait l'objet d'un moment de formation, un moment de diffusion, généralisation à l'intérieur de l'économie. Cette généralisation va impliquer, du moins l'espère toute banque, que cette innovation financière va passer d'une occasion à une obligation. occasion de se protéger contre les variations de taux de change. C'était quelque chose de merveilleux en 1974, puis les grandes multinationales pouvaient s'en servir. Aujourd'hui, la plus petite PME québécoise qui doit acheter des produits aux États-Unis est contraint de participer au marché des produits dérivés de taux de change pour se protéger contre les variations. D'une occasion de marché, c'est devenu une contrainte de participer à cette sphère. Et toute banque espère que ces innovations financières deviennent des contraintes et donc se généralisent sous la forme d'obligations. Une fois qu'elles se sont généralisées sous forme d'obligations, normalement, on assiste à une période d'extension. Et c'est là que l'analyse de Minsky est intéressante. Cette période d'extension va frapper des limites. Il va y avoir des limites et ces limites vont apparaître comme soit des frontières régulatoires ou des frontières de marché. Frontières de marché, par exemple, on sature la capacité d'hypothéquer les ménages américains avec des revenus stables et donc on traverse la limite en hypothéquant des ménages américains sans revenus. Et donc, dans ce cas-là, on peut voir le subprime comme juste la continuation de la logique du prime. Qui est, ça, on pourra en reparler un peu plus tard, mais au Canada, on a vu ce processus-là à l'œuvre aussi. Et donc, dans ces phases d'extension, on assiste à une mutation de l'innovation financière. Et c'est dans cette période de mutation qui amène l'instabilité, qui va après, parmi ces mutations, faire l'objet d'un triage. Et c'est là où on va finalement sélectionner les mutations dites performantes pour le capitalisme financiers versus les mutations qui vont être rejetées. Par exemple, si vous regardez l'évolution de la titrisation des actifs des créances des ménages en Amérique du Nord, vous avez deux trajectoires très différentes entre les États-Unis et le Canada. Et les États-Unis réussissent à étendre finalement et à normaliser la titrisation des créances des ménages. Et on atteint en ce moment, on a dépassé en ce moment un taux d'endettement des ménages canadiens. Notre taux est supérieur au taux américain et la vitesse de titrisation de nos créances a dépassé la vitesse de titrisation des créances des ménages américains. Donc, il y a eu une divergence évolutive et c'est un peu à ça qu'on... Alors, quand on examine l'innovation, c'est quoi les propriétés recherchées? Évidemment, la valeur. C'est quoi la valeur qu'on peut extraire de l'innovation financière? C'est quoi le potentiel de marché en amont, c'est-à-dire la source d'activités économiques qui vont faire l'objet d'une transformation en actifs liquides. Et de l'autre côté, en aval, l'exutoire, où c'est quoi la demande pour ces actifs éventuels. Et troisième aspect, j'en ai beaucoup parlé tantôt, mais ça me semble important à garder en tête, c'est quoi le potentiel d'encastrement dans le procès économique de cette innovation, c'est-à-dire comment on peut la transformer en d'occasion en nécessité. Et ça me semble... Alors, on peut dire que les banques... dans les 30 dernières années, ont beaucoup investi dans la capacité d'innovation. Une grande partie, et qui dit donc capacité d'innovation, dit capacité lors de rencontres de frontières régulatoires ou de frontières de marché, de contourner ces frontières par une mutation des innovations. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser toute la question de Bâle III. Dernier aspect qui me semble important, il y a une tendance à la monopolisation de l'innovation financière, c'est-à-dire que les plus grandes banques sont souvent celles qui, indirectement ou directement, sont responsables de l'innovation financière, directement quand c'est à l'interne, indirectement quand elles investissent dans des startups. Si on regarde, par exemple, la pénétration des actifs de type subprime titrisés ici au Canada, cette innovation a été faite par des petites boîtes à Toronto, mais qui étaient en fait des créations de deux grosses boîtes, la Banque nationale et la Caisse des dépôts et placements. Et là, donc, on voit qu'on a un arrimage entre des grandes entités. Bon. Alors maintenant, deux rapides, parce que je suis rendu à 10 minutes, là? Je parle vite, là. Assez. Bon, tu vas me laisser un petit 10 minutes de plus. OK, deux exemples. De post-2008, des formes de normalisation. Ici, c'est une photo, carrément, photo dans le sens que c'est j'ai repris tel quel un extrait du communiqué du 6 janvier du comité de base sur le contrôle bancaire. C'est l'annexe 2. L'annexe 2, donc ici, ce sont les normes, les nouvelles normes prudentielles qui vont devoir être mises en place. Alors, c'est le ratio donc de liquidité à court terme Et donc, ça s'applique aux grandes banques. Et on regarde. Ça veut dire que j'ai. Ça veut dire que mon 20 minutes.
Non, excuse-moi.
C'est que
j'étais tellement pris.
Par ça, ici.
Voilà, c'est cela. Il y a bon. Une demi-heure de faire. Alors là, il faudrait que tu essayes de conclure.
OK. Ben, mettons, je prends 3 minutes, là. Un exemple, ici, quand on regarde ce qui va rentrer dans le deuxième niveau des actifs. Alors, c'est les actifs que les grandes banques, en cas d'événements de marché, en cas de stress, comme on dit, sont supposés pouvoir faire face à ce stress en vendant ces actifs qui sont considérés comme des actifs très liquides. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve, par ailleurs, nos créances aux ménages titrisées qui auraient des cotes AA, mais tout de suite, on s'empresse de nous dire que ces notations seront faites par des agences de notation locales. Alors, on vient donc de normaliser, pour certains régimes bancaires, ce processus, cette innovation, excusez-moi, financière, qui était la titrisation des créances des ménages. Pourquoi? Bien, parce que dans certaines économies, ici, c'est des travaux de Louis Gaudreau, qui est assis là-bas, nous a fait ce beau tableau, qui nous montre que dans le cas du Canada, par exemple, la titrisation hypothécaire est quelque chose d'essentiel au financement de notre économie. Et du côté de DBRS, quand on regarde, là, alors ça, c'est les données de l'année passée, on voit que la titrisation des créances... le relais privé, pas le relais qui passe par un pôle public, mais celui qui passe par un pôle privé, qui concerne donc des créances de cartes de crédit, de prêts automobiles, de tout ça. On est retourné en 2010 au niveau équivalent à 2008, sinon plus. Donc, il n'y a pas eu de crise dans ce segment-là au Canada. La crise est déjà quelque chose du passé. Deuxième, ce petit tableau, puis j'arrête là-dessus.
Oui, oui, oui.
L'oligopolisation, alors deuxième facteur, on dit la crise c'est du too big to fail. Alors ça c'est le processus, c'est les 4 plus grandes banques américaines, c'est leur quantité, c'est le montant de leurs actifs. La crise elle est ici. Alors on voit que c'est plutôt, on assiste plutôt à un long processus de formation d'un pôle oligopolistique aux États-Unis, sans vraiment, avec un léger ralentissement, mais qui commence bien avant en fait la crise. Et si on regarde de ce côté ici, ça ici, c'est la participation de banques américaines à des holdings bancaires. Il y en a fait 14 qui comptent. Et on voit que, en termes de part d'actifs, on est rendu à plus de 65 % des actifs bancaires et le nombre de holdings est en diminution. Mais je remonte ici en arrière. Alors, j'ai croisé, juste pour examiner un peu c'est qui cet oligopole bancaire international, j'ai croisé deux listes, c'est assez drôle ce que ça donne. Alors j'ai la liste des 27 banques à caractère systémique de la BRI. Si une de ces banques est en difficulté, c'est le système financier mondial qui est en difficulté. Alors c'est ce qui est dans toutes ces cases ici du tableau, par région. Et après j'ai rajouté la liste des 16 banques qui font l'objet d'une poursuite par la municipalité de Baltimore dans le cadre de l'enquête sur la manipulation du LIBOR. Et assez curieusement, il n'y a que... alors, il faut ajouter 4 banques et on a l'ensemble scénario. Et si vous prenez, après ça, toutes ces banques ici et vous les mettez sur le palmarès des 100 premières banques en termes soit d'actifs... Alors, j'ai fait actifs, puis j'ai fait capitalisation. Vous avez... toutes ces banques sont dans les 40 premières. Donc, en croisant ces deux listes, on voit qu'on a vraiment affaire à... et c'est là où je m'arrêterai avec des questions, mais je pense que... je vais me permettre quand même juste ce dernier tableau pour poser la question, est-ce qu'on a affaire à un oligopole régionalisé, ancré en Europe, ancré en Angleterre et aux États-Unis, ou est-ce qu'on a affaire à un oligopole qui se mondialise? Quand on regarde sur les marchés... ça, c'est le marché... des produits dérivés rattachés à différents compartiments, le taux d'intérêt, crédit, donc les credit default swaps, tout ce qui est rattaché aux actions. On voit que les 14 plus grandes banques, en fait, 14 plus grands acteurs ont une position prédominante et parmi ceux-ci, les 5 plus grandes banques américaines sont responsables pour au moins le tiers du volume. Et quand on regarde après ça, c'est la même chose ici. Si on regarde dans le temps, on voit que le moment de la crise, c'est un moment d'explosion, de la consolidation de la présence
de ces acteurs oligopolistiques sur les marchés plutôt que diminution. En fait, on assiste à partir de 2009 à un resserrement du marché. Donc, j'arrêterai là-dessus. Donc, en fait, pour juste dire que... Bon, j'avais une petite note ici là, sur le marché du change, là, mais on a quelques informations supplémentaires sur l'oligopolisation. Mais en fait, tout ça pour dire que deux processus qui marquent les 40 dernières années, qui sont l'oligopolisation et la dynamique d'innovation financière, et qui ne semblent pas s'amenuiser avec la crise, mais qui semblent au contraire continuer et même se consolider.